Aujourd'hui, sur Django, nous accueillons Andrea Egli, membre militante de ACIDUS, l'Association citoyenne pour la défense des usagers du service public. Bonjour Andrea.
Bonjour.
Et Jean-Claude Cochard, vice-président de l'Union syndicale vaudoise.
Bonjour.
Aujourd'hui, on va plus particulièrement parler des accords TISA, des accords sur le commerce des services négociés dans le plus grand secret, faut-il le rappeler, et rendus publics par Wikileaks. Accords TISA contre lesquels l'association, votre association Acidule milite, et aussi bien les syndicats. On va en parler avec toi tout à l'heure, Jean-Claude. Et toute une série d'actions, on en parle parce que toute une série d'actions sont prévues pour parler de ces accords de nouveau et les rendre publics et pour lutter ainsi contre toute forme de privatisation imposée. Andrea, tu nous rappelles quels sont les objectifs de ces accords TISA?
Eh ben, l'objectif principal, c'est la privatisation de tous les services publics. Les services publics, c'est un marché énorme à travers le monde, pas seulement ici, mais à travers le monde. Ça concerne des sommes faramineuses et évidemment, ils aimeraient privatiser tout ça pour pouvoir en tirer un bénéfice. Donc, ce profit irait pour les multinationales et les États n'auraient plus leur rôle de régulation qu'ils ont aujourd'hui. Donc ça, c'est important parce que l'État ne jouerait plus ce rôle-là. Après signature de ces accords de libre-échange, il faut dire que les accords de libre-échange, ils existent depuis tout temps entre les pays, hein, c'est des accords qui se signent à tout moment. Mais ceci est un accord énorme entre l'Union européenne, tous les pays de l'Union européenne. En fait, c'est 51 pays qui sont en train de négocier, dont la Suisse, et tous les pays de l'Union européenne, les États-Unis, etc. Et ces accords vont imposer aux États une politique qui n'est peut-être pas la leur. Et c'est ça qui est grave. Commencer, quand on signe un accord international, après les lois de l'État doivent s'y conformer. Donc on devra changer nos lois. Les lois de l'État priment sur les lois cantonales et celles-ci sur des décisions communales. Donc on sera touché jusqu'au niveau communal.
Une sorte de perte de maîtrise de ce qui fait la législation chez nous.
Voilà, exactement. Et une perte de maîtrise déjà au niveau communal des décisions qui pourraient être prises en faveur des citoyens que nous sommes.
Alors, Jean-Claude, est-ce que tu as un exemple de ce que pourrait être un accord fait entre ces multinationales, par exemple, et la région dans laquelle nous vivons?
Oui, alors évidemment que les syndicats membres de l'Union syndicale vaudoise suivent de très près l'évolution donc, de ces négociations secrètes. Et surtout, ce qui est paradoxal aujourd'hui, c'est qu'on voit que les milieux économiques, les associations patronales, les banques et surtout les parlementaires qui sont liés à ces milieux sont sur la question de ces négociations. Personne ne parle de ces négociations, donc c'est bien des négociations secrètes qui sont détournées des processus normaux de démocratie. Et ceux qui réclament la souveraineté, par exemple, du droit suisse dans certains milieux, sont totalement discrets sur ces questions fondamentales. Pour nous, les syndicats, nous sommes évidemment en première ligne de ce combat parce que ça va concerner immédiatement les salariés du service public en particulier, mais aussi dans le secteur privé.
Mais alors, par exemple, si on vient au monde des transports, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce qui pourrait se passer avec ces accords négociés de façon internationale sur, les TL, par exemple, ici à Lausanne?
Alors, par exemple, donc moi, je suis représentant du syndicat du personnel des transports, donc le SEV au sein de l'Union syndicale vaudoise. Donc nous suivons très attentivement ce dossier parce que, par exemple, les transports publics lausannois sont une entreprise en situation de monopole public, donc c'est les seuls qui ont une concession pour exploiter des lignes urbaines sur la voirie publique de Lausanne. Et le, par exemple, si les accords TISA sont acceptés et appliqués en Suisse, eh bien, par exemple, une société privée pourrait revendiquer l'exploitation d'une ligne, par exemple, particulièrement profitable au centre-ville. Je vous citerai un exemple, par exemple, CarPostal, qui a développé une navette automatique en ville de Sion, qui est en train de faire des tests actuellement, pourrait, si les accords TISA rentrent en vigueur, par exemple, demander l'ouverture d'une ligne, par exemple, du flanc jusqu'au tunnel avec une navette automatique, qui serait en concurrence avec le système des transports publics lausannois.
C'est de la concurrence, mais ça signifie que comment s'imposerait cette nouvelle société par rapport au transport public ?
Alors, c'est pas compliqué, c'est-à-dire du moment que le secteur serait totalement libéralisé, c'est aussi un danger dans le cadre de l'Union européenne ou qui impose, par exemple, à la Suisse donc la reconduction des accords bilatéraux avec un accord institutionnel. On devrait reprendre l'acquis communautaire de l'Union européenne où de telles éventualités sont déjà réelles. Donc CarPostal exploite des lignes de transport public dans certaines villes de France. Donc des sociétés françaises demanderaient évidemment la réciprocité et comme ça, par exemple, une entreprise privée pourrait concurrencer directement les transports publics lausannois sur leur propre infrastructure.
Alors, oui, Andrea.
Ce qu'on peut dire, c'est que le problème, c'est que les transports publics, ils sont subventionnés. Il faut savoir que le 60% du billet de DTL est payé par nos impôts. Ça, il faut le savoir. Et nous payons un billet qui est souvent, nous trouvons que c'est cher, bien cher, mais il correspond aux 40%. Donc, ils sont déjà subventionnés. Si tout ça vient à se libéraliser, les entreprises privées vont pouvoir demander cette subvention à même hauteur. Donc, on va subventionner des entreprises privées, non pas pour le meilleur fonctionnement d'une société, mais pour la meilleure contenance d'une bourse privée. Donc, on va enrichir des privés avec des subventions publiques. Et c'est ça qui est inadmissible. Ici, quand on subventionne l'ETL, il n'y a personne qui s'enrichit. L'ETL fonctionne et puis on peut les critiquer tout ce qu'on veut, mais on a des bus et on peut exiger des améliorations, on peut discuter sur leur fonctionnement. Quand ils seront privés, on ne pourra plus rien demander, plus rien exiger, plus rien discuter.
Mais quelle
une perte de démocratie.
De démocratie.
Jean-Claude l'a dit, je le ressouligne parce que c'est ça qui est le plus grave.
Mais quelles possibilités en droit, par exemple, les autorités locales ont pour refuser une telle demande de privatisation, par exemple, comme le disait Jean-Claude, d'un tronçon citadin?
Si les accords passent, on n'aura plus aucun moyen.
Pourquoi?
En droit, parce que la libéralisation sera signée, donc on peut plus s'opposer, on pourra plus s'opposer en tant que communauté publique.
Donc il y a automatiquement plus de possibilités de recours ou de refuser quoi que ce soit comme contrat.
Mais c'est la loi et on ne peut plus rien dire.
Okay.
Donc voilà.
C'est important
donc,
de le dire.
La communauté publique ne pourra pas s'opposer à une libéralisation si les privés le demandent. Donc ça, c'est clair.
Jean-Claude ?
Oui, alors au niveau des procédures d'arbitrage en cas de conflit, c'est assez dramatique parce qu'en fait, c'est des instances supranationales privées, donc des tribunaux d'arbitrage privés, qui seraient saisis par exemple par un recourant qui a été débouté par rapport à une situation de monopole public. Et puis, généralement, ce sont souvent des tribunaux américains qui sont spécialisés dans ce genre de procédure parce qu'ils ont fait leur expérience, ces tribunaux américains, notamment au Pakistan, au Venezuela, enfin dans différents pays d'Amérique du Sud et aussi en Europe de l'Est depuis la fin, la chute du mur de Berlin, la fin de l'Union soviétique, tout un immense processus de privatisation en Pologne, Hongrie, Tchécoslovaquie a eu lieu. Et ils ont mis en circulation des méthodes donc de démantèlement des pouvoirs publics, des monopoles publics. Et ces avocats américains ont une longueur d'avance sur d'autres institutions européennes parce qu'ils ont déjà expérimenté sur le terrain ce genre de procédure.
Donc ça serait une sorte d'internationalisation du droit aussi ?
Bah oui, exactement. Puisque la loi internationale prévaut sur la loi nationale, qui prévaut sur la Cour cantonale, communale, etc. Et puis, au niveau communal, ça peut être encore plus grave, parce qu'une chose qui a été une fois privatisée ne pourra plus jamais être renationalisée. Donc, en France, il y a eu beaucoup de communes qui ont privatisé la distribution de l'eau.
Oh, un petit joli téléphone.
Ces communes qui ont privatisé la distribution de l'eau ont voulu après renationaliser et ils l'ont fait parce qu'ils n'étaient pas satisfaits de la manière dont l'eau était, les conduites, enfin, étaient entretenues, etc. Donc, cette renationalisation avec TISA n'est plus possible. On ne peut plus revenir en arrière. Quelque chose qui a été privatisé ne peut plus être renationalisé. Quelque chose qui n'existait pas au moment de la signature des accords ne pourra plus être créé au niveau public. Donc on ne peut pas ajouter un service public nouveau après la signature de ces accords. Ça, c'est grave, quoi.
Jean-Claude, privatisation égale démantèlement, égale, on le voit encore aujourd'hui dans les journaux, des baisses d'emplois, des suppressions d'emplois, notamment dans les CFF, pour ce qui nous concerne aujourd'hui. Il y a démantèlement, mais il y a aussi un démantèlement du service public. Donc une péjoration des conditions dans lesquelles le public va être servi par le service public.
Oui, absolument. Et puis, donc le syndicat des cheminots, le SEV, est particulièrement remonté contre les considérations qui ont été faites par le directeur des CFF, parce que quand il dit qu'il veut stabiliser le prix du billet, ce qu'il n'a pas dit, c'est que la régie CFF a déjà été, d'une certaine manière, préparée à la privatisation par la fractionnalisation de l'entreprise en divisions autonomes pour pouvoir mieux les privatiser. Et ça, c'est une décision qui avait été prise déjà à l'époque, donc quand on a transformé le statut donc, des régies publiques CFF et PTT. Méthode a été faite dans le sens de vouloir privatiser ces entreprises, particulièrement les chemins de fer, sur le modèle allemand. Et le gouvernement allemand, avant la crise de 2008, n'a pas réussi à ouvrir le capital de Deutsche Bahn aux investisseurs privés, parce qu'il y a eu la crise financière qui est arrivée à ce moment-là. Et les CFF, parce que oublier qu'aussi le directeur actuel des CFF était à Deutsche Bahn avant et a préparé la privatisation des chemins de fer allemands. Donc en Suisse, c'est exactement aussi ces mêmes personnes qui préparent la privatisation des chemins de fer. Seulement, on ne veut pas le dire ouvertement, mais en ouvrant, et ça c'est aussi la ministre de tutelle, donc Doris Leuthard l'a dit clairement dans son objectif 2030 de l'Office fédéral des transports, c'est plus de concurrence sur le réseau ferroviaire suisse, parce que pour ces milieux-là, c'est, paraît-il, la seule solution pour l'avenir du chemin de fer. Mais on a déjà fait sauter en Europe le monopole du trafic de transport par marchandises. Et ben, le résultat, c'est que toutes les gares de triage ont disparu et sont désertes aujourd'hui, couvertes de mauvaises herbes. En privatisant le transport des voyageurs, le résultat sera à peu près semblable. Donc on peut dire qu'à moyen terme, c'est comme aux États-Unis, ce sera la mort des trains voyageurs.
Andrea, militante de la CIDUS, Association citoyenne pour la défense des usagers du service public. Jean-Claude vient de parler des transports. Quels autres secteurs risquent de souffrir de ces accords TISA?
Bon, d'abord, c'est tous les secteurs du service public, tout ce qui est service public et qui peut être rentable. D'accord? Mais on peut parler... L'école, bien sûr. Vous voyez, les enfants doivent aller à l'école. C'est obligatoire. C'est un marché géant qui pourrait demander les subventions à hauteur de ce qui est subventionné l'école publique aujourd'hui. Les universités privées pourraient demander les subventions fédérales que reçoivent les universités de ce pays, etc., etc. Ça peut être géant. Comme marché, c'est géant. Mais au niveau communal, si on parle plus proche de chez nous, Les cantines scolaires. Les cantines scolaires pourraient être privatisées. Les cantines scolaires pouvaient être privatisées et en plus, on pourrait imaginer que aucune norme concernant la nutrition serait en vigueur, serait obligatoire. Donc aujourd'hui, on parle de fourchettes vertes, on parle d'un tas de choses à l'école, comment réveiller les enfants aux différents goûts, aux différentes, aux différentes manières de manger, comment avoir une nourriture saine, en parlant, en leur faisant goûter, en les éveillant à tout ça depuis la plus tendre enfance dans les garderies. Et bien ça pourrait terminer.
Mais est-ce qu'on est déjà en train de parler justement de ça, c'est-à-dire d'enlever un certain nombre de normes au niveau de la nutrition pour que ça soit plus rentable, tu penses? Ou bien est-ce que c'est des choses qui vont venir par la suite, par l'élan de libéralisation et de gains prévus?
Alors, on n'est pas en train de parler de ça aujourd'hui. Par contre, on doit voir qu'un tas de réfectoires ont disparu des écoles.
Bien sûr.
Ils ont disparu des écoles au profit de plus grands centres de fabrication de repas et de distribution de repas dans les différents endroits. Donc ça existe déjà aujourd'hui, mais c'est encore décidé par les différentes municipalités. Donc c'est encore une décision qui nous appartient, que nous pouvons changer. Nous pourrions intervenir au conseil communal, demander au municipal qui s'occupe des écoles et lui dire « nous, on veut autre chose ». Et on peut le faire aujourd'hui. Après, on ne pourra plus. Donc ça, c'est ça qui est important, c'est cette perte de démocratie-là. Voilà. On ne pourra plus exiger, demander, changer des choses, améliorer des choses. Tout devra se conformer à une espèce de cadre unique.
Plus de pouvoir sur les décisions à prendre. Donc il y a plusieurs actions qui sont prévues la semaine prochaine, à partir de demain même, samedi. Et j'ai vu que vous allez intenter un procès à la ville de Lausanne. Qu'est-ce qu'elle a fait, la ville de Lausanne, pour lui intenter un procès?
Alors, disons que ce n'est pas nous, mais que c'est un investisseur privé qui va intenter un procès à la ville de Lausanne concernant ses cantines scolaires, justement, parce qu'il se verrait mis de côté pour une quelconque décision de la ville. Et c'est ça qu'on veut montrer, comment ça peut se passer. Ça pourra se passer comme ça.
Donc, en fait, il y aura le défenseur de la cantine scolaire qui aura devant lui un mur parce qu'il ne pourra pas discuter avec la ville.
Il y aura un avocat et il y aura un municipal ou une municipale qui va défendre les décisions de la ville de Lausanne.
C'est une pièce de théâtre.
Oui, c'est un théâtre de rue.
Théâtre de rue. Ça fait penser à ce film, Bamako, je ne sais pas si tu te rappelles, ce film où on a mis en scène un procès dans une cour en Afrique contre le FMI et puis la Banque mondiale, qui était accusé d'être un des pires maux pour l'Afrique.
Oui.
C'est un peu ça.
C'est un peu ce procès-là. C'est public. Un peu ça, mais il faut voir que ça existe déjà. Hein. On peut... Avant, Tisa n'est pas encore là, mais ce genre de procès existe déjà. L'Uruguay a voulu avoir une politique comme la nôtre vis-à-vis de la cigarette. Interdire de fumer dans les lieux publics, que les paquets aient un avertissement du genre « fumer tue ou est mauvais pour votre santé » ou je ne sais pas quoi. Eh bien, Philip Morris a fait un procès, a exigé des millions de l'Uruguay. Ils ont fait un procès. Et tout dernièrement, on peut dire avec un sourire que l'Uruguay a gagné ce procès. Ce n'est pas dit qu'on va toujours gagner, mais l'Uruguay, cette fois, a gagné. Donc, c'est David contre Goliath, peut-être, mais c'est quand même possible. Mais combien d'autres procès nous allons perdre et nous n'allons pas pouvoir faire la politique que nous estimons juste pour nos citoyens, comme là, c'était la politique de la santé. C'est quand même pas n'importe quoi.
Et on sait que par rapport à l'eau, par exemple, il y a une guerre absolument incroyable qui va se préparer. Donc, on est en plein dans cette dynamique-là.
Oui, on est en plein dans cette dynamique-là. Par rapport à l'eau, je disais tout à l'heure, les communes qui sont revenues en arrière, et ben celles qui ne pourront pas revenir en arrière, ils vont faire quoi?
Oui. D'autres actions cette semaine, tu nous les présentes un peu?
Alors, mardi 27 à 18h30 à l'espace Dickens, il y aura une table ronde avec Stéphane Guiguer, qui est secrétaire central du syndicat des services publics, qui est un grand connaisseur du dossier TISA, qui va pouvoir nous parler du traité, mais aussi des conséquences justement au niveau des communes et de très pratiques, quoi. Savoir un peu en quoi ça peut nous toucher. C'est ça qui est important. Et moi, je vais parler un peu de ce qu'on peut faire contre. Je vais parler un petit peu aussi des villes qui se déclarent zone hors TISA, comme elles se sont déclarées il y a 10 ans zone hors AGCS, parce qu'il y avait les négociations d'un accord semblable, qui peut-être, parce qu'il a été mis dans le public, au public, et qu'on en a tellement parlé, et il y a eu tellement de pression, il n'a pas abouti. Peut-être qu'aujourd'hui, on arrivera à faire la même chose avec TISA.
Et puis, encore une troisième personne, David Redler, des Verts, à l'espace Dickens, mardi 27.
Oui, voilà, oui, c'est ça. David Redler, il est des Verts, il est aussi avocat, et c'est lui qui se préoccupe aussi de la mise en scène de notre procès de samedi.
Ah oui.
En tant qu'avocat, il sait très bien comment faire pour que ça soit un peu conforme à un vrai procès.
Oui, et puis il y a une manifestation nationale sur la place fédérale à Berne, samedi 8 octobre à 15h, c'est ça, hein?
Oui, sur la place fédérale, oui, c'est important qu'on soit nombreux.
D'accord.
C'est important qu'on soit nombreux parce qu'il faut quand même dire stop TISA. Nous, on fait cette semaine, elle est sous l'égide d'un thème qui est Suisse hors TISA.
Suisse
sort de TISA. Ne continue pas à négocier ces traités.
Lausanne est une ville hors TISA.
Lausanne, oui, Lausanne, oui. Renon, Sainte-Croix, à Genève-Zurich. Puplinge, Carouge, Mérin.
Alors ça, c'est des actions concrètes, voilà.
Oui.
On se détermine comme étant hors TISA. Tu l'as suggéré tout à l'heure. Quelles sont les actions celle-là, ça n'est certaine. Mais quelles sont les actions envisagées et envisageables?
Alors ça, c'en est une, parce que c'est pas juridiquement, elle n'a aucune valeur, mais c'est une pression politique impressionnante pour nos dirigeants, pour leur dire « nous, on ne veut pas ». Et c'est ça qui est important.
Qui négocie DFAE ou
non, le SECO.
Le SECO
négocie, et le SECO trouve qu'ils font assez attention pour que nos services publics ne soient pas privatisés, mais à terme, ce n'est pas possible.
Attention à ça, le SECO.
Ils disent garder les services publics dans une liste de domaines qui ne seront pas touchés. Mais de plus en plus, il y aura plus de domaines, on sera obligé d'aller.
Donc la pression, c'est une des actions fortes.
Fortes, et puis le fait de le rendre public. TISA était tellement secret qu'on savait qu'il existait, mais sans savoir de quoi il s'agissait, jusqu'aux fuites de Wikileaks. Jusqu'aux fuites de Wikileaks, et puis Greenpeace a sorti aussi des choses la semaine passée. Donc il y a des fuites et des choses qui sortent, mais c'est un peu à compte-gouttes, et c'est justement parce qu'il y a des fuites. Mais sinon, on n'en sait rien.
Jean-Claude, les lieux de résistance et les actions de résistance?
Oui, alors tout d'abord une chose, donc le SECO a mis effectivement donc la liste sur sa liste négative, donc c'est-à-dire d'exception, les transports publics, le secteur des transports publics. Mais d'après les fuites que nous avons donc avec, comme a dit Andrea, donc Wikileaks et d'autres informateurs, nous avons aussi appris que des négociations ont eu lieu sur les annexes de l'accord. Et les annexes de l'accord sont contraignants pour des secteurs, parce que si une majorité de pays acceptent, par exemple, que les transports publics soient privatisés sur leur territoire, la Suisse, dans la négociation finale, devra de toute façon reprendre le contenu des annexes de la majorité des membres qui auront accepté donc ces négociations. Donc, de toute façon, c'est un peu un miroir aux alouettes de dire que certains secteurs sont sortis de l'annexe. alors qu'ils ont effectivement été déjà négociés en parallèle par d'autres pays, et la Suisse devra leur prendre. C'est un peu ce qui se passe dans le cas de l'Union européenne. Alors nous, c'est clair que dans le secteur des transports publics, on a aussi la possibilité, et on va probablement le faire, encourager nos membres à le faire, c'est-à-dire dans les entreprises de transports publics, de se déclarer aussi zone hors TISA, comme on l'avait fait par exemple au Montreux-Ballon-Bornois. Dans le cadre de l'AGCS, le personnel du MOB avait voté une résolution lors d'une assemblée de syndicats pour déclarer le territoire et le patrimoine de l'entreprise Montreux-Ballon-Bornois hors zone AGCS.
Moi, j'aimerais juste parler d'un sujet qu'on n'a pas effleuré. Il y a beaucoup de sujets qu'on n'a pas effleurés, mais un qui est particulièrement important, ce sont les paysans. L'agriculture, elle sera durement touchée, menacée. Les normes sociales et environnementales vont être balayées. Donc, nous, on peut vouloir ce qu'on veut, on aura autre chose. Et c'est pour ça que Uniter est très, très actif contre cet accord de TISA, et aussi la Fédération de l'agriculture contractuelle. Ce sont les petits paysans qui s'occupent de l'agriculture de proximité. Hein. Eux aussi, ils ont tout intérêt et ils sont engagés là contre. Donc voilà, je voulais juste mentionner ça parce que c'est un secteur très important et très large. Hein. C'est notre futur, notre nourriture.
Et les agriculteurs s'organisent ?
Et les agriculteurs s'organisent. Et nous avons une coalition nationale où participent tous les partis, on peut dire de gauche, les syndicats, ATTAC et Uniter et l'association Transport et Environnement. Il y a un tas d'associations, de syndicats qui en font partie et qui luttent contre ces traités au niveau national. Après, nous avons des alliances au niveau cantonal, comme ici Stop TISA à Genève, etc. Il y en a plusieurs, et on essaye quand même de faire bouger un peu la chose, et surtout de rendre public, surtout que les gens sachent à quel sens ils vont être mangés.
D'autant plus que les révélations, elles ne datent pas d'il y a longtemps. Les accords, j'imagine qu'ils ont eu le temps de se concrétiser un peu secrètement. Mais donc, c'est aussi, j'imagine qu'il y a aussi des panels de découvertes un peu tous les jours, ou bien ?
Oui, presque, en tout cas régulièrement. Et chaque fois qu'on découvre quelque chose, c'est un peu plus effrayant. On peut imaginer que l'accord va encore au-delà de ce que nous pensons. Et ça, c'est... Voilà, ça nous fait peur, quoi. Ça
Bien
nous
sûr.
Fait peur.
Mm-hmm. Alors, pour terminer un peu, rappelons que sur le site de acidus.ch, il y a toute une foultitude d'informations par rapport à ces accords TISA. Est-ce que du côté des syndicats, il y a aussi des sites, par exemple, sur lesquels on peut voir un peu la position des syndicats, voir des informations, des compléments d'informations, etc., touchant aux différents domaines du travail ?
Alors, au niveau de l'Union syndicale vaudoise, on n'a encore pas vraiment publié certaines informations. Par contre, le service public, le SSP, lui a déjà plusieurs publications qui sont disponibles à leur secrétariat. Donc là, on peut déjà s'informer également. Et puis aussi d'autres associations comme ATTAC, qui a aussi toute une documentation à disposition sur leur site.
Oui, et puis aussi tous ces partis qui font partie de notre coalition ont publié des choses sur leur site, comme l'EPS, le POP, Solidarité, les Verts, les Jeunesses des Verts du Pop, et les Jeunesses Socialistes. L'ATE, l'Alliance Sud, il y a beaucoup d'associations et autres qui ont publié sur leur site des informations sur TISA. Si on met TISA sur un moteur de recherche, il y en a plein. Oui.
Il y en a plein. En tout cas, merci.
On peut s'informer.
Merci beaucoup d'être venu sur Django pour nous donner un petit peu, pour nous informer justement de ces accords, et puis pour montrer les actions qui sont prévues, notamment au ça commence demain, on le rappelle, 24 septembre, samedi, place de la Palue à Lausanne, un procès arbitral contre la commune de Lausanne, simulé, et qui se déroulera en public.
À 11h.
À 11h. Mardi 27 septembre, 18h30, espace Dickens, une table ronde. Voilà, pour expliquer de nouveau, pour expliquer les conséquences des accords TISA. On pourra se dire au revoir, on peut se dire au revoir ici sur Django pour se rendre compte un petit peu de comment ces accords continuent, quelles sont les actions et quels sont les compléments d'information qu'on peut donner.
Mais oui, nous, on va continuer cette coalition Stop TISA. On continue après ces actions. On va encore agir pour réveiller un peu les consciences parce que c'est trop important. Et surtout que, comme l'administration américaine aimerait faire signer ces accords avant la fin de l'année, parce que Obama a fini son mandat et il aimerait bien avoir bouclé ça avant. On aimerait essayer de l'en empêcher.
Merci Andréa Aigli, représentante militante de l'association ACIDUS, l'Association citoyenne pour la défense des usagers du service public, et Jean-Claude Cochard, vice-président de l'Union syndicale vaudoise.
Merci à Radio Django.